Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être dans ce cas une personnalité remarquable avec ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions afin de vous faire réfléchir et puis de vous faire bénéficier de son expérience pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un petit service à vous demander pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous êtes déjà très très nombreux à être passé à la casserole, si je puis dire, eh bien, je veux bien que vous me fassiez ce grand plaisir, ce grand service de me laisser, s'il vous plaît, un avis sur le podcast. Je sais que c'est pénible à faire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ça qui permet au Gratin de déployer ses ailes et d'être connu par un maximum de monde. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le Gratin que j'arrive à vous dégoter des invités aussi cool que Chris Marquez. Alors justement, parlons de Chris. D'abord, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où il est très présent. Chris Marquez, vous connaissez le nom forcément, triple champion du monde de salsa avec sa compagne Jackie. On connaît beaucoup Chris pour ses coupes de cheveux rocambolesques, son humour décapant sur Dals ou sa redoutable énergie. Et bien dans cet épisode, je crois que vous allez découvrir une personne encore bien plus profonde et intéressante que les strass et paillettes nous le laissent entrevoir. Entrepreneur, metteur en scène, geek, amoureux de la vie, Chris est une personnalité solaire et je suis certaine que vous allez passer avec nous un excellent moment. Concrètement, dans cet épisode, on a parlé de salsa, bien sûr, mais aussi d'exigence, de timidité maladive, de prise de risque, d'Instagram, de drague, de McKinsey ou encore de qu'est-ce que ça fait vraiment de devenir champion du monde, 3 fois de suite en plus. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Chris Marquez. Bonjour Chris.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast.
Merci de m'avoir invité.
Bah, ça fait déjà un moment qu'on rigole. C'est sympa. Je n'en doutais pas en fait en t'invitant. Je suis ravie. Je vais quand même commencer par un sujet sérieux si
D'accord.
ça te va.
Très bien.
J'aimerais à un moment donné là, tout de suite, que tu nous fasses revivre ce que c'est que devenir champion du monde. Alors, je sais que maintenant la danse, c'est un métier, mais que tu danses plus autant, évidemment, puisque on peut imaginer qu'à l'époque, t'avais une exigence qui faisait que tu devais faire ça probablement matin, midi et soir, toute la journée non-stop. Mais j'aimerais qu'on se projette un peu pour comprendre le travail qu'il y a derrière, finalement, 3 places de champion du monde à la suite, si je me trompe pas, que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé cette journée-là. Enfin, je sais pas si ça se passe sur une journée. Et puis, j'aimerais bien aussi avoir tes émotions. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment où tu apprends que vous allez être champion du monde.
Bien sûr. Les championnats du monde, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en fin de compte, il se passe sur une journée, de temps en temps, à l'autre bout du monde, mais en fin de compte, c'est la fin, on va dire, d'une aventure qui dure plusieurs mois, plusieurs années. Un championnat du monde, ça se prépare pas du jour au lendemain.
C'est ça.
Dans mon cas, moi, c'était encore plus particulier parce que personne ne savait qu'en plus de ça, dans ma vie de tous les jours, j'étais malade et je n'avais que 2 heures utiles par jour pour me préparer au championnat du monde. Donc, c'était vraiment très particulier parce que tout fonctionnait grâce à la prépa. Je ne pouvais pas me dire, en fait, mon talent ou ouais. Mon côté un petit peu showman va me sauver le jour J. C'est impossible, en fait. Il y a un tel niveau d'exigence que quand les autres s'entraînent 8 à 10 heures par jour, toi, tu dois t'entraîner minimum 8 à 10 heures par jour aussi. Et en plus de ça, tu dois être mieux préparé que les autres. Je ne pouvais pas le faire. Et donc, on a dû redoubler, on va dire, d'ingéniosité sur les prépas au championnat du monde. Et on a tout de suite pris un coach psychologique qui nous permettait, en fait, c'est un coach qui qui bossait principalement avec des athlètes, qui les préparait aux Jeux Olympiques, etc. Et on a appliqué ces méthodes à la danse, ce qui normalement n'est pas forcément quelque chose d'habituel, parce que la danse encore aujourd'hui n'est pas forcément considérée comme un sport, c'est considéré comme une activité très intense physiquement, certes, mais plutôt une activité artistique. Mmh. Sauf que quand on fait de la compétition, automatiquement, il y a l'élément de sport qui rentre en jeu. Donc, ce coach psychologique nous suit pendant des mois et nous apprend justement à produire des performances beaucoup plus régulières, beaucoup plus puissantes et comment justement les améliorer au fur et à mesure. Et il y a un truc qui devient très très clair, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler si je serai malade le jour même ou pas. Ouais. On ne peut pas contrôler le fait que je ne puisse m'entraîner que 2 heures par jour pendant tous ces mois de préparation. En revanche, on peut contrôler, ça va paraître très bête ce que je dis, mais c'est très précis, on peut contrôler notre chorégraphie de A à Z. On peut contrôler nos costumes de A à Z. On peut contrôler notre capacité à réagir à la musique de A à Z, c'est-à-dire travailler tous les éléments d'improvisation, justement se replonger dans les origines, pour moi, la salsa par exemple, dans les origines africaines de la salsa, afro-cubaine, et de travailler des éléments tels que les questions-réponses, c'est-à-dire pouvoir réagir à certains éléments percussifs de la musique ou mélodiques, etc. Donc, la préparation. Que peut-on contrôler? Ensuite, pendant des mois, on a commencé à développer un autre muscle qui est tout simplement la visualisation de notre performance. Et au départ, on se disait, bon, est-ce que c'est réellement très utile? Est-ce que ça remplace réellement de l'entraînement? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont sorties, qui étaient faites justement sur des équipes de baseball aux États-Unis, dans lesquelles, quand des athlètes en baseball, des joueurs, ajoutaient à leur performance d'entraînement, à leur entraînement, des exercices de visualisation, eh bien, les connexions qui se faisaient entre le cerveau et le muscle et les capacités de réaction, eh bien, s'amélioraient tout autant que lorsqu'il il répétait réellement les mouvements en vrai. C'est-à-dire que le cerveau ne distingue pas entre la visualisation et la réalité du mouvement. Pour nous, c'est absolument fabuleux, parce qu'en fait, je ne peux pas faire ces 8 heures d'entraînement.
Ouais, physiquement,
il faut que je puisse remplacer. Et donc, énormément d'entraînement se faisait dans nos têtes. Mais c'est qu'on allait très très loin, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à s'imaginer la salle dans laquelle on était public autour de nous, où est-ce qu'on regardait, comment on rentrait sur scène, comment est-ce qu'on réagissait justement au bruit du public et aux juges, que cherchaient-ils, que pouvions-nous en fait. Et donc arrive le jour J, parce que c'est au final ce qui nous intéresse. Par exemple, on a gagné nos 3e championnat du monde sur l'île d'Aruba, c'est dans le golfe du Mexique. Et là, ce qui est très étrange, c'est qu'on rentre dans un état, le jour J, qui est d'ailleurs un état dans lequel j'ai plein de copains qui sont champions olympiques, qui me disent qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose. Et c'est très étrange parce qu'on n'en parle pas d'habitude. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on vit. Tout d'un coup, on rentre dans un espèce d'automatisme. On est presque en autopilote. On a tellement travaillé, on a tellement vécu cette même journée 15 000 fois dans nos têtes, que tout d'un coup, quelque chose de très étrange se passe qui est: tout ce qui nous arrive nous est déjà arrivé. On a déjà anticipé ce mouvement, on a l'impression de déjà vu presque toute la journée, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est déjà quelque chose qu'on a répété dans nos têtes. Et au final, le moment qui est vraiment... et c'est drôle parce que j'en ai des poils de nouveau. Quand on arrive au moment de cette finale où on a un petit segment où on peut présenter, en tant que danseur de salsa, on peut présenter une petite chorégraphie d'une minute, 32 minutes, dans laquelle on a la liberté totale de présenter nos costumes, notre musique, etc. Et c'était justement... Nous, on misait tout sur ça. C'était le truc sur lequel on avait le contrôle absolu. Le moment où on rentre sur scène pour faire cette petite chorégraphie, ce qui est absolument génial, c'est que tout d'un coup, eh ben, on contrôle plus rien et en même temps tout se passe exactement comme on l'a prévu, mais on est très puissant, on se sent pas en fait en position de faiblesse ni c'est en train de nous arriver. Non, c'est juste que ce qui se passe devait se passer exactement comme ça, et donc on est c'est l'apothéose, c'est l'apogée absolue du moment, dans le sens où c'est mieux que dans notre tête vu qu'on est en train de le vivre, et le public réagit également. Et tout d'un coup, quelques instants plus tard, eh bien, les juges qui notent à note levée, c'est-à-dire que si les juges décident que vous devez être premier, ils vont lever tout simplement un 1 pour signaler votre place. Et là, en fait, j'ai 12 juges qui lèvent justement, 13 juges, pardon, qui lèvent justement la note numéro 1. Et donc, on devient champion du monde pour la troisième fois à l'unanimité à l'autre bout du monde avec des couples de toute l'Amérique du Sud, de tous les Caraïbes, de partout dans le monde. Et là, on est champion du monde. Et bizarrement, on se dit, ah bah ouais.
Une fois de plus.
Trois fois, bah, je crois que c'est bon, c'est plus de la
là,
chance.
C'est bon, ouais, c'est ça. C'est incroyable, c'est drôle ce que tu me dis parce que j'ai interviewé sur le podcast, je sais pas si tu l'écoutais celui-là, avec Alexandra Rekia qui a été championne du monde de karaté. Et elle me décrivait ce moment où en fait, ses gestes étaient presque au ralenti. Elle avait presque l'impression d'être à l'extérieur d'elle-même, tu vois, et de... Ouais, ça se passait exactement comme tu le décris, c'est-à-dire presque indépendamment d'elle, quoi.
Mais c'est drôle parce qu'en fait, il y a ce côté, j'ose pas, j'en ai parlé avec, avec Camille Lacour, qui est un copain à moi. Et en fait, j'en parlais avec lui, j'ai dit, c'est bizarre parce qu'en fait, on se sent hors de nous, mais en même temps, on est en plein contrôle. Ouais, donc, il n'y a pas ce côté de, ah, je ne contrôle plus le moment. Parce qu'en fait, bah, tout ce qui se passe, se passe très clairement. Mais en même temps, on peut assister et vivre. La performance est très bizarre, c'est très étrange, mais c'est magique parce qu'en fait, effectivement, il y a un élément de dilatation du temps qui est génial aussi. On a réellement le temps de voir les microsecondes, c'est-à-dire que j'entends souvent des choses dire, des gens dire « Ah ben non, pendant que je fais ma performance, je ne vois personne, je ne vois rien. » Ben moi, je peux être honnête, les trois fois où on a gagné nos championnats du monde, les trois finales, à chaque fois, j'étais capable de dire oh bah, cette personne nous a souri à tel et tel moment et ah oui bah cette personne s'est levée également. C'est très étrange. Tout d'un coup, we're one. On est dans un espèce de flow incroyable et c'est assez magique.
C'est
très bizarre.
Complètement addictif.
Oui.
Je comprends que tu aies été champion du monde trois fois du coup.
Oui. Bah tu sais pour la petite anecdote, c'est vraiment parce que la première fois, mon épouse et moi on s'est vraiment dit c'est du bol. Il faut retourner une deuxième fois. Et la deuxième fois, on s'est dit, ah,
quand même.
Il y a peut-être une tendance qui s'installe. Et la troisième fois, on s'est dit, ça va, non, c'est bon.
On y est, quoi.
Non, je l'assume pleinement.
Mais alors, justement, c'est drôle que tu me dises ça parce que je me posais un peu cette question. Tu te dis pas que c'est du bol, mais tu te dis, il y a quand même un facteur chance d'une certaine manière. T'as beaucoup travaillé et tout, mais comme tu le dis, tu peux être malade ce jour-là, etc. Et au final, bah, trois fois de suite, non. Là, il y a plus de chance. Quelle a été ton émotion quand même, avec ton épouse peut-être, la première fois que vous avez le résultat, que vous avez le verdict? Quand en fait, t'as tant d'années de travail, tu vois, enfin j'ai lu plein de choses sur toi, du coup que t'avais commencé à danser à l'âge de 2 ans et tout. Alors t'as peut-être pas voulu être champion du monde à l'âge de 2 ans, mais globalement...
12.
On va en parler après. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quoi dans ta tête le jour où on te dit tu es champion du monde, en plus avec ta femme, c'est quand même génial. Qu'est-ce qui se passe quoi?
Il y a deux moments. Il y a l'instant T et les quelques heures qui suivent. Où on est, mais alors, mais c'est je sais pas, il doit y avoir une décharge de d'endorphines absolument dingue et on se sent on plane, on adore, on est heureux et c'est réellement l'aboutissement d'eux. Sauf que quand on se prépare pendant des années à ça, on oublie qu'en fait le jour où on y arrive, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe 2 jours après. On se dit, bah c'est fait. Mais en fait, et maintenant alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est très particulier. Et c'est pas forcément négatif. C'est juste que c'est très étrange d'être complètement absorbé par une activité, d'être complètement absorbé par un défi.
Objectif, quoi.
Ouais. Et tout d'un coup, ok. Bah non, mais en fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et maintenant, c'est quoi la suite? C'est ça un peu les émotions. On est tiraillé dans tous les sens.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ton enfance et que tu me dises comment t'es tombée dans le monde de la danse. Je crois savoir que ça vient beaucoup de ta famille.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses? T'as pas eu le choix? On t'a forcé, genre, à 2 ans, à commencer à danser? Ou en fait, c'était un truc naturel pour toi? T'adorais ça? Comment ça s'est passé?
Alors moi, en fait, c'était beaucoup plus tard. Mon papa, donc... Moi, ma famille est portugaise et espagnole. J'ai grandi en Alsace. Et donc, papa était chanteur dans les bals populaires espagnols et portugais. Donc moi j'avais 2 mois, j'étais déjà dans le couffin, dans les bals tous les vendredis et samedis et voilà, moi j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré cette ambiance assez festive. En revanche j'étais un enfant très timide et donc j'étais capable de rester assis toute une soirée sans bouger. Mon petit frère et ma petite sœur, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que eux, ils adoraient danser. Très rapidement, mes parents se sont dit, bon, bah, on va les emmener à une école de danse et ils vont apprendre à danser. Sauf que quelques mois plus tard, mon petit frère et ma petite sœur deviennent champions de France. C'est-à-dire que, voilà, c'était magique pour eux. Sauf que moi, bon, bah, c'était pas du tout mon truc. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai 12 ans. Mais vraiment pas mon truc. J'adore la musique. Je n'aime pas du tout l'idée de me lever et de danser.
Devant des gens, en plus.
Devant des gens, encore moins. Et donc, à l'âge de 12 ans, il y a juste une chose qui commence à percuter un petit peu avec moi, c'est que je vois mon petit frère toujours entouré de super jolies filles. Et moi, avec ma timidité maladive, ça ne... Voilà, ça... Il y a un truc où je me suis dit, bon, il a peut-être...
Il a peut-être compris quelque chose, quand même.
Il y a un truc. Et donc, je me dis, bon... Je vais aller prendre un cours de danse.
Ah là là.
Et je dis à maman, écoute, j'aimerais bien aller prendre un cours de danse. Et elle se met à exploser de rire.
Ah ouais, donc très... parce que tellement t'en faisais pas et
c'était incompatible.
Ah, c'est tellement drôle.
Ouais, c'était incompatible complètement. Et donc voilà, ils riment et ils disent, bon bah écoute, tu vas aller prendre un cours de danse. Oui, bien sûr, pourquoi pas, tu vois, ce sera drôle. Et donc, j'arrive à mon premier cours de danse, et là, pareil, il y a un petit truc magique qui se passe, c'est qu'après la première demi-heure, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi, c'est-à-dire que, je m'en souviens encore aujourd'hui, la première demi-heure passe à une vitesse absolument incroyable, je m'en fous littéralement du fait qu'il y a d'autres enfants et ados autour de moi, je suis complètement absorbé par cette activité, et je dis à mes parents, j'adore, je trouve ça génial. Et là, je passe de ne jamais danser à danser 3 heures par jour, immédiatement, c'est-à-dire d'un jour à l'autre. Et quelques semaines plus tard, je crois, un truc comme ça, la directrice de l'école de danse contacte mes parents et leur dit, écoutez, je sais que les petits sont bons, mais je pense que bah, le grand, il faudrait le mettre à la danse aussi. Alors, mais je pense qu'il faudrait le mettre en compétition. Alors là, mon père, mais alors, a trouvé ça, mais...
Explose de rire.
Absolument génial. Il s'est dit, mais alors là, vraiment, vous êtes pas trompé avec les deux petits, mais alors avec le grand, dis donc, vous êtes vraiment trompé. et au final, bah, 6 semaines plus tard, j'étais déjà dans les finales des grandes compétitions, on va dire, françaises. Et 6 mois plus tard, j'étais champion de France de ma catégorie. J'ai jamais arrêté. Et à l'âge de 16-17 ans, donc 4 ans plus tard, je décide de partir à Lyon, où je devais finir ma terminale, mais en même temps, ça me permettait de commencer à travailler avec des profs internationaux, dans un nouveau club un petit peu plus grand, un petit peu plus installé au niveau international. Et je me dis très rapidement, en fin de compte, après 6 mois, en fait, si je veux faire ce que je veux faire, il faut que je parte. Et donc là, je rentre à la maison et je dis à mes parents, après ma terminale, je dis à mes parents... Écoutez, au mois de septembre, je m'en vais, je pars à Londres. C'était où se trouvaient les plus grands chorégraphes, les plus grands coachs. Et je me suis dit, de toute façon, si je veux faire quelque chose, autant le faire. Je préfère être un petit poisson dans une
un grand bocal, une grande mer.
Plutôt que, voilà. Et donc, je suis parti. Sauf que j'avais oublié que je parlais pas l'anglais. Donc, c'était particulier.
À ce moment-là, tu sais que tu veux faire de la danse vraiment une carrière ou c'est encore assez flou dans ta tête parce que je sais que tu as fait d'autres études de commerce en parallèle?
Non. En fait, il y avait quelque chose de très particulier. C'était l'aspect compétitif et créatif qui vraiment m'absorbait complètement. L'argent ne m'intéressait pas, le côté carrière ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était ce que je pouvais faire avec... Cette danse, il y avait quelque chose de très intriguant à être son propre outil de travail. Je trouvais ça intéressant. Et je pense que depuis très petit, il y avait peut-être des éléments en moi qui ne savaient pas en fait se développer forcément ou s'exprimer, mais j'avais un certain besoin de contrôle. Je n'aimais pas en fait lâcher le contrôle. Et donc, dépendre de soi-même était quelque chose que je trouvais intéressant. Voilà.
Quand tu décides de partir à Londres, enfin, je ne sais pas quel âge tu as exactement à l'époque, mais
18.
Voilà, 18, tu es quand même encore très jeune. Je peux imaginer que tes parents étaient complètement flippés. Est-ce que tu peux me dire, justement, parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui nous écoutent, qui sont dans ces transitions de vie, qu'est-ce qui fait que ça ne reste pas dans ta tête un rêve, un doux rêve, et que tu dis non, en fait, je ne parle pas anglais, mes parents flippent. Je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai tout à prouver, mais j'y vais quand même. Je prends ce risque un peu fou hein, quand même, de me lancer dans une aventure plus grande que moi quoi, à l'époque.
En anglais, ils ont une expression qui est géniale, qui est « hindsight is a beautiful thing ». Je pourrais raconter une histoire splendide maintenant, qui ferait, mais alors, on pourrait faire un film à Hollywood avec, mais c'est pas le cas. Je pense que dans ces périodes de transition, on a juste besoin d'un petit peu de folie. On a besoin de se dire que de toute façon, pour faire quelque chose de différent, eh ben, il faut faire quelque chose de différent. Il faut se mettre en position de, pas forcément position de danger, mais il faut se mettre en position de l'inconnu. Il faut se permettre l'inconnu. Et donc, moi, à cette époque-là, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'habité par la peur. Je suis quelqu'un qui est habité par l'envie de faire et l'envie de découvrir. Donc, si je devais, moi, par exemple, me décrire, et ça continue encore aujourd'hui, je suis l'éternel apprenti. J'aime apprendre non-stop. C'est ce qui m'excite, c'est ce qui me plaît. Et donc, à ce moment-là, pour apprendre, il fallait que je fasse ce que j'ai fait. Le confort est important pour certaines personnes. Pour moi, il ne l'était pas tant que ça. Pour moi, ce qui était plutôt important, c'est d'apprendre des meilleurs.
On a parlé de danse et au début, tu nous parlais de l'exigence que ça nécessite. On a parlé aussi de ton côté peut-être légèrement perfectionniste, en tout cas qui aime le contrôle. Et tout ça, c'est des mots, tu sais, qui sont très évocateurs, justement avec l'univers de la danse, où on se dit que c'est vraiment une passion presque dévorante qui nécessite un travail de fou. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est au final, si tu prends énormément de recul, c'est peut-être un peu philosophique, mais qu'est-ce que la danse t'a vraiment appris sur toi, sur qui tu es, toi, Chris Marquez? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir, tu vois, au-delà du fait que t'étais mon danseur, quoi?
Alors, la danse, c'est quand même assez philosophique, parce qu'en fin de compte, à différentes étapes, on apprend réellement des choses différentes. La première chose, c'est que la danse vous apprend immédiatement que la discipline, en réalité, est à votre service. Donc, souvent, on n'aime pas l'ennui de la répétition, l'ennui de l'apprentissage ennuyeux. L'ennui de l'apprentissage ennuyeux, super. Mais dans un premier temps, c'est cette discipline qui naturellement mène à des résultats rapidement et des résultats répétables, ça nous apprend que voilà, ça fonctionne.
Le travail,
travailler,
ça paye, quoi.
Paye.
Une belle valeur, j'aime bien.
Mais ensuite, il se passe d'autres choses. Pour moi, par exemple, j'ai découvert que l'une de mes... je ne sais pas si je suis l'un des plus créatifs, je ne sais pas si je suis l'un des plus intelligents, l'un des plus malins, mais je sais une chose, mon cerveau a une capacité à trouver des mécanismes, la façon dont fonctionnent les choses, c'est une de mes facilités. Et ça, c'est la danse qui me l'a montré. C'est-à-dire que j'étais capable, pendant très longtemps, je n'avais pas l'argent, mes parents n'avaient pas l'argent, ni l'accès à des profs internationaux, et donc la seule façon que j'avais d'apprendre, c'était de prendre des vieilles VHS.
Et de regarder des vidéos, quoi.
De regarder des vidéos, de mettre sur pause, et de comprendre. Ah oui, la colonne vertébrale est comme ça. Ah oui, bah regarde la tête, elle est jamais désaxée. Ah bah attends, les bras en fait, ils servent de... Ah bah il y a trois phases dans ce mouvement. Il y a une phase de préparation, le mouvement en soi et une phase de fin. Et petit à petit en fait, je me rends compte que mon cerveau très rapidement réussit à décomposer. Et donc voilà, pour moi en fait, c'est ces deux choses-là. D'abord la discipline qui paye, le travail paye, et ensuite le fait que j'ai une capacité à trouver des systèmes, à trouver des procédures, à trouver des mécanismes dans n'importe quoi.
Et ça, c'est hyper intéressant. Tu l'as appliqué à d'autres domaines que la danse ?
Oui, parce que je n'ai pas eu le choix. Quand je suis arrivé en Angleterre, ce qui est drôle aussi, c'est que donc je ne parlais pas l'anglais. Et là, pour le coup, il y avait pas photo. Je ne parlais pas l'anglais du tout. J'ai mis 3-4 mois à apprendre à parler. Et c'était particulier parce que pendant 3 mois, on comprend rien. Et tout d'un coup, 3 mois plus un jour, on se rend compte qu'on comprend la télévision dans une autre pièce. C'est quand même assez marrant. Mais ça, il n'y avait pas de secret. Il fallait juste y passer et il fallait s'entourer uniquement d'anglais. Et voilà, c'est allé très vite. Mais la danse de couple, c'est encore un univers à part dans le sens où il n'y a pas de cursus comme dans la danse classique, dans le jazz, etc. C'est un cursus beaucoup plus privé. C'est un cursus dans lequel il faut prendre des cours particuliers uniquement. Et quand on veut travailler avec les plus grands profs, une heure de cours peut coûter 150 euros. Quand on a 18 ans et pas un rond, ça paraît quand même assez dingue. Sauf que, on est quand même déjà allé assez loin, on a appris une nouvelle langue, on est loin de ses parents et de sa famille, on ne va pas non plus laisser 150 euros nous ralentir maintenant. Donc, que faire ? Eh ben, en fait, je me suis dit à l'époque, et là, on remonte quand même loin parce qu'en fait, on est en 98, je crois, un truc comme ça, 99. Et là, je passe deux petites semaines à feuilleter les journaux. Et ça va paraître très con, mais je passe deux semaines à feuilleter les journaux en Angleterre et je me dis, mais dans quelle industrie est-ce que je peux me lancer pour rapidement gagner de l'argent et me payer en fait tout ça ? Et à l'époque, en fait, on était en pleine explosion. On appelait ça le dot-com boom. Ouais. C'était la première vague de gros sites de commerce électronique. Et je dis à Jackie, mon épouse, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais peut-être me lancer dans l'informatique. J'y connaissais que dalle. Et là, comme par hasard, se manifeste deux jours après une proposition pour une petite boîte informatique, mais bon, qui générait déjà 30 millions de livres de chiffre d'affaires, qui cherchait un vendeur de pièces informatiques, mais qui savait parler espagnol, portugais et français. Je me suis dit, bon, il n'y a pas plus fait pour moi, à part le fait que je ne sache pas
ce que c'est.
Et donc, je dis à Jackie, écoute, tu vas chez Waterstones, c'est un magasin... il y en avait plusieurs, mais bon, il y a un magasin de livres, une librairie. Et je lui dis, écoute, tu m'achètes tous les magazines que tu peux me trouver sur les pièces détachées d'informatique, l'informatique, les ordinateurs, tu achètes tout. Tu
prends. C'est énorme.
Et elle me ramène ça et pendant 5 jours, je planche. Et la seule question qu'on m'a posée en fait à mon interview, c'était, vous savez ce qu'il y a dans un ordinateur ? Et là, en fait, je leur ai décrit comment construire un ordinateur de A à Z. J'ai donc eu le job. Mais bon, en même temps, c'était pas non plus un job de dingue.
Tu ne savais pas taper sur un clavier, oui, mais tu savais ce qu'il y avait dans un ordinateur.
et donc, je démarre. Très rapidement, j'aime bien ce côté un petit peu... c'était une petite start-up, petite équipe, mais qui faisait pas mal de business. Et très rapidement, en fait, mon patron voit que j'ai quand même une facilité pour communiquer avec les clients. J'ouvre 2-3 gros comptes. Je me rappelle, un jour, on travaillait beaucoup avec des lignes de crédit. Je pense que c'est peut-être trop technique pour les clients, mais on travaillait beaucoup juste avec des... On approchait un client, on lui ouvrait une ligne de crédit, ouais. Ils avaient 200 000, 300 000, voilà. Mmh. Et donc, un jour, j'appelle en cold call complet une boîte qui s'appelle Triudus au Portugal. Et je réussis à les convaincre d'ouvrir une ligne de crédit de 250 000 balles.
Même toi, tu décroches
livres.
Le téléphone, tu dis mais...
Oui, mais je comprenais rien à ce que je leur disais. Hein. Je savais juste que je connaissais la marque du produit et que c'était un bon produit qui était au bon prix. Ça me suffisait pour vendre le truc. Et donc, je décroche ce truc, j'ouvre la ligne de compte, la ligne de crédit. Mon patron me dit, mais ça fait des années qu'on travaille sur ce truc, on n'a jamais réussi à les ouvrir. Et donc, voilà, la chance du débutant. Et en fait, mon patron me voit faire et quelques semaines plus tard, il me dit, écoute, on a du mal quand même en marketing. Est-ce que ça te brancherait de t'occuper du marketing pour la boîte ? L'ignorance et la débilité du mec de 20 ans qui dit, mais bien sûr, pas de problème. Allons-y. Jackie, tu peux aller à la section marketing et
tu peux regarder ce que c'est.
Que tu peux me choper.
C'est énorme.
Et donc, elle m'achète tous les bouquins qu'elle pouvait me trouver. J'apprends très rapidement. On réussit à augmenter le chiffre d'affaires de quasiment 50%. Quand même, on passe à quasiment... là, on était à 45 millions de livres par an. Et j'adorais ça. Je trouvais que c'était très cool. Et là, mon patron me dit, je suis pas satisfait, je veux un site. Alors, c'est très vieux jeu. Je veux un site web. Il faudrait qu'on développe un site web. Je fais, non, t'inquiète, je te règle ça. Et donc, je me mets à sortir un site, mais qui était immonde. Mais immonde. Honnêtement, c'est... 20 ans plus tard, j'ose l'admettre, mais c'était honteux. Voilà. Sauf que voilà, très rapidement, je fais la même chose. Je dis à mon épouse d'aller m'acheter des bouquins. J'apprends à coder. À l'époque,
c'est toi, tu le fais. Bon, avec une équipe quand même, peut-être.
Non,
j'espère.
On n'avait pas besoin à l'époque. Tu te rends pas compte. À l'époque, c'était mais d'une simplicité enfantine. On était au balbutiement. Il y a rien qui marchait. Donc de
oui,
toute façon,
si cas...
on arrivait à mettre un peu de texte et une image sur Internet, c'était formidable déjà.
D'accord.
Mais donc voilà, j'apprends à coder en HTML et un petit peu de CSS et j'apprends donc à coder ce site Internet. Et je dis à mon patron, à cette époque-là, je lui dis, écoute, j'ai eu une idée, mais j'aimerais te la présenter, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Et donc là, en fait, je lui décris un truc. Et c'était, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'était que l'issue de tout ce que j'avais emmagasiné et lu sur l'informatique et donc le commerce électronique, etc. à l'époque, qui tout d'un coup, en fait, fait...
Ouais.
Et je lui dis, écoute, je viens d'avoir une idée, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une solution comme SAP, qui est une solution simplement de comptabilité, qui est utilisée par TF1, Nike, BMW. C'est plus que de la compta, mais ça ne fait rien. Mmh. Et je lui dis, pourquoi, en fait, on n'y attache pas une base de données Oracle qu'on connecte directement sur Internet. À l'époque, tout était en fait en interne uniquement sur des espèces de mainframe. On avait encore du mal en fait à connecter SAP avec des activités en ligne. Et je lui dis, alors on pourrait en fait prendre une base de données Oracle, on pourrait la connecter à SAP. SAP fonctionne à partir des données de la base de données. Et en fait, la base de données, on pourrait la connecter aussi au site Internet. Et ce site Internet, il pourrait être alimenté en temps réel par tous les fournisseurs de toutes les pièces informatiques du marché. Et à travers un petit algorithme, mais tout simple, on pourrait avoir le bon prix au bon moment, parce qu'en fin de compte, le prix n'est que résultat de le prix de la pièce chez tous les fournisseurs, mais également le taux de stock chez tous les fournisseurs et notre marge en additionnel. Il me dit, ouais, viens avec moi. Et donc là, je me retrouve, je crois que c'était 2 jours plus tard, chez IBM, à Londres, à IBM Finance, et je me retrouve devant 10 personnes. Et là, mon patron me dit juste, Chris, dis-leur ce que tu m'as raconté.
Explique le truc là.
Et donc, je commence et en fait, on repart 2 heures plus tard et on a une offre le soir même de financement à hauteur de 6 millions de livres pour cette idée. OK. Je deviens donc, à l'époque, le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au fur et à mesure, je commence à être en fait publié aux États-Unis pour mes opinions sur le futur du commerce électronique. D'accord.
Le tout alors qu'en fait tu voulais juste financer des cours de salsa à 150 balles.
C'est ce qui m'intéressait en fait. Moi le vendredi soir, je partais du bureau, je prenais l'avion pour aller faire une compétition en Allemagne. C'était vraiment uniquement pour ça. Sauf que cette petite aventure va un peu plus loin. Et là, j'ai un chasseur de tête qui me contacte, qui me dit écoutez, on a une boîte de consulting à San Francisco qui est très intéressée, qui a remarqué vos articles et vos prises de parole, etc. Et ils aimeraient vous faire une proposition pour venir travailler ici. C'était un des plus gros consultants à l'époque qui me demandait de travailler chez eux. Et c'était vraiment, en termes de montant à l'époque, j'avais quand même 20 ans maintenant. En termes de montant, c'était...
Oui, lunaire voilà. Par rapport à ce que tu pouvais...
C'était un changement de vie, quoi. Je rentre à la maison, j'explique ça à Jackie, et en fait, on explose de rire parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Barnum ? Sauf que cette discussion qui démarre de façon assez drôle nous mène quand même à une conclusion une demi-heure plus tard qui est... Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors oui, on pourrait partir à San Francisco, avoir une maison absolument géniale, un boulot qui est garanti pour au moins les 5-6 prochaines années, et honnêtement, on n'aurait peut-être pas besoin de continuer à travailler très longtemps après ça. Mmh. Ouais, mais sauf qu'en fait, mes heures de... Je devrais mettre 70 à 90 heures par semaine, à mon avis, pour justement ces 5-6 prochaines années. Il n'y aurait plus de danse dans l'histoire. C'est fini, tout ça. Donc on aurait l'argent, mais on n'aurait pas du tout, en fait, le truc pour lequel on voulait l'argent. Et donc là, ce jour-là, je décide, avec mon épouse, de plaquer le volet, de fermer, on va dire, le volet informatique.
Alors même que tu es, excuse-moi de t'interrompre, entre guillemets, au sommet du moment, tu vois, où,
ouais.
Où voilà, enfin, t'aurais pu en faire une carrière certainement très, très intéressante.
Ouais.
Du coup, je t'interromps là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on reste un peu de temps dessus. Quelle a été la réaction de ton entourage? Tu es un fou furieux?
Oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je commence à être malade. Et j'ai été malade pendant une dizaine d'années, en fait, c'est quasiment toute ma vingtaine. Je commence à être malade et on ne savait pas ce que c'était, on n'arrivait pas à trouver ce que c'était. Il y avait plein de choses différentes. Et il y a quand même une chose qui revient très souvent dans la famille et qui est très importante pour mon épouse et moi, c'est on n'a qu'une seule vie, il faut vivre heureux. Ça sert à rien non plus de se compliquer les choses en mode il nous faut absolument ce château. Parce qu'en fin de compte, tu veux quoi exactement? Tu veux la vie de château? Tu veux avoir froid le matin quand tu te réveilles parce qu'en fin de compte, tu peux pas payer le chauffage pour chauffer un château? Ou est-ce que tu veux simplement vivre bien et heureux? Et vivre bien et heureux, c'est pas forcément dans le château que t'as besoin de le faire. Et donc, ce vivre heureux, il était très important. Et je me suis dit, et mon épouse m'a dit la même chose, on a fait tout ça pour pouvoir danser. Dansons. et on essaiera de régler l'argent plus tard. Voilà.
Tu parles de la maladie régulièrement parce que c'est une période qui a duré longtemps.
Ouais.
Quels ont été les premiers symptômes, si ce n'est pas indiscret? Et finalement, j'ai l'impression que cette période a complètement conditionné qui tu es parce que tu as été obligé de vivre les championnats du monde en t'entraînant seulement 2 heures et non pas 8 heures par jour. Est-ce que tu pourrais nous dire justement ce que cette période difficile t'a enseigné sur toi ou t'a permis de dépasser, tu vois?
Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bien que j'ai été malade pendant toute ma vingtaine, personne ne le savait, à part mes parents et mon épouse et notre famille très très proche. On voulait surtout pas devenir les malades, on voulait pas que ça nous définisse en tant qu'individu, et on voulait pas que ça change le regard des autres également. Ça, c'était très important pour nous. Donc tout ça, c'était chez nous, c'était à la maison, c'était caché, et basta. Il y a deux choses, c'est que cette maladie m'a obligé à revenir sur certains fondamentaux, c'est-à-dire la prépa, c'est la moitié de la réussite, on va dire, et peut-être même les 90% de la réussite, et de ne pas laisser tout à la chance. Il y a toujours un petit peu de chance, mais de ne pas tout laisser à la chance. Donc, toujours être préparé et de savoir où concentrer ses énergies. Quelles sont les priorités?
Ouais, c'est ça. Ça t'apprend à prioriser à mort.
Il y a des choses qui, tout d'un coup, paraissent complètement mais inutiles quand il faut vraiment faire le choix, quand il faut faire le tri. Voilà.
Tu sais, avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit « je suis pas vraiment chorégraphe, je suis même plus vraiment danseur non plus, parce que tu danses toujours un peu, j'imagine, mais pas à temps plein. Enfin, t'es pas un vrai danseur ouais. professionnel. » Et en fait, maintenant, je suis metteur en scène. Je trouve ça intéressant. Et au-delà de ça, j'aimerais dire, t'es showman. Mais je le vois au sens positif. C'est-à-dire, tu crées une émotion chez d'autres personnes via la mise en scène, mais aussi via tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu le disais, tu fais 1000 trucs en même temps. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ce métier-là et finalement tout ce que t'as fait précédemment? La vente, où t'arrives à nous sortir des contrats de malades mentaux juste en décrochant le téléphone. La danse, où, comme tu le disais, tu avais même moins de préparation que les autres, mais tu arrivais à construire un univers devant les juges. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? C'est-à-dire, c'est quoi finalement ce talent incroyable que tu as de créer une émotion ou de, je sais pas, créer une énergie chez les autres? C'est quoi finalement le trait de caractère, tu vois, Chris Marquez, qui fait la différence et qui fait que tu as réussi à reproduire, une fois de plus, des succès dans plein de domaines hyper différents?
Ok, alors il y a deux choses. La première, c'est que je ne me sens pas talentueux. Moi, je suis convaincu, et c'est la source de discussion absolument sans fin entre mes potes artistes et moi et mon épouse. Moi, je suis convaincu que si tu suis ma méthode... Et quand je dis ma méthode, c'est un grand mot. Hein. Si tu suis mes process, hein, si tu fais exactement ce que moi j'ai fait, tu auras exactement le même résultat ou quasiment le même résultat. Je pense que voilà, il y a pas un talent particulier.
Oui, t'es pas né avec un talent particulier pour la danse, par exemple.
Non. Mais quand tu regardes en fait tous les mots qu'on utilise ou tous les mots que j'ai utilisés pour décrire et les mêmes que tu as utilisés pour décrire ce parcours, tu parles de performance, on parle de discipline. On parle de process, d'optimisation. Au final, c'est exactement les mêmes mots qu'on utilise tous les jours pour aider un entrepreneur. Il faut qu'il soit conscient de la performance et de l'efficacité de son entreprise. Il faut qu'il soit rigoureux parce qu'on sait très bien que c'est un travail de longue haleine et que le résultat, en fait, très souvent, la même chose qu'on dit au sujet d'un artiste, c'est vrai pour un entrepreneur. On met 10 ans à devenir un overnight success. On met 10 ans à devenir un succès du jour au lendemain, en fait. Pour un entrepreneur, c'est souvent la même chose. C'est-à-dire que le succès n'est pas là tout de suite. Il arrive dans quelques années à la fin d'un parcours de longue haleine. Quand on parle de process, on le sait très bien que l'optimisation justement d'un business, l'optimisation d'une structure, elle provient justement de la compréhension des process qui sont en jeu à l'intérieur même de la structure et de l'organisation. Ce qui est très étrange, c'est que pour moi, en fait, c'est même pas un parallèle. C'est-à-dire que pour moi, c'est identique que je parle d'une carrière artistique comme la mienne ou que je parle d'une entreprise. J'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qui sont en jeu.
Là, du coup, tu mets de l'eau à mon moulin parce que j'adore interviewer sur le gratin des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi des artistes, etc. Parce que je suis assez convaincue comme toi qu'au final, c'est un état d'esprit. C'est, alors, le mot process, il est peut-être un petit peu dévalorisant pour des métiers d'art, mais en tout cas, c'est une discipline, c'est une méthode qui va faire que dans le temps, tu vas réussir à atteindre tes objectifs.
Quand on parle à des artistes, que ce soit des réalisateurs, quand on parle à des auteurs, on parle de leur process. Il y en a plein. Tout le monde n'écrit pas un livre de la même façon. Il y en a qui parlent dans leur dictaphone pendant 15 jours et qui tout d'un coup, en fait, commencent à travailler à partir de cette base. Il y en a d'autres, en fait, qui vont immédiatement suer sur le moindre mot et la moindre virgule posée sur la page blanche. Ce sont des méthodes, ce sont des process. Donc, je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit dévalorisant, justement, parce que je pense qu'on sous-estime combien on peut économiser d'énergie en utilisant les bons process ou en optimisant au fur et à mesure les process.
La période actuelle, je peux imaginer qu'elle n'est pas facile pour une partie de ton métier, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'événementiel. Je veux bien qu'on en parle un petit peu si ça te va, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent « il n'y a que moi qui souffre en ce moment de cette période merdique du Covid », on peut le dire, où ok, il y a les restaurateurs, mais des métiers comme les tiens où en fait, t'organises des spectacles, tu les montes, tu fais toute la mise en scène avec parfois des milliers de personnes, je peux imaginer, dans les salles, bah en fait, en ce moment, il n'y a plus. Tout simplement. Comment tu vis cette période? Comment tu fais pour te dire, il y en a encore pour un an, et en attendant, what next?
Comment je la vis? Je la vis ultra mal.
Mais toi, bizarrement, pas, mais...
Non, mais bizarrement, je la vis ultra mal, cette période. Mais je trouve qu'il y a également quelque chose de très... Et là, je parle vraiment personnellement. Hein. Je n'oserais pas me moquer de comment le vivent les gens. Mais pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de très, très drôle. De très...
Ironique, tu veux dire ?
Ironique, et le monde te remet à ta place, en fin de compte, très rapidement. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, j'ai une idée de spectacle. Je travaille toujours sur les nouvelles technologies. J'essaie toujours de voir, en fait, ce qui est en train de se faire un petit peu partout. Et... il y avait une technologie émergente en 2017-2018 qui était en fait un système holographique qui permettait justement d'avoir des images sur scène. Et en analysant cette technologie, en essayant de comprendre pourquoi certains spectacles qu'il utilisait ne marchaient pas, etc., je tombe sur un constat personnel qui est, je trouve que l'erreur de ces spectacles est de vouloir reproduire en hologramme des êtres humains, alors qu'en fin de compte, le côté formidable de cette technologie, c'est de reproduire tous les décors qui sont impossibles, si ce n'est à travers cette technologie holographique. C'est de reproduire les décors, de créer des univers complètement dingues et de mettre des danseurs et des chanteurs et des artistes dans ces univers. Donc pour moi, en fait, la technologie était formidable, mais pas utilisée correctement. Et donc je me dis, et si on crée un spectacle qui est au croisement du spectacle de danse et de la comédie musicale, dans laquelle on mélange réellement les médias, la vidéo, les hologrammes, les danseurs sur scène, que tout soit en transition absolument, mais qu'il y ait une finesse en fait dans le travail de transition entre justement tous ces médias. Et si on crée quelque chose d'un peu sympa? Et donc on crée ce spectacle, on y investit littéralement nos économies de 10 ans, plusieurs centaines de milliers d'euros. On investit dans le spectacle. Le spectacle fait une quinzaine de représentations en 2019 à grand succès. Et là, alors la façon traditionnelle de faire un spectacle, c'est qu'en fait, on fait, c'est un petit peu la méthode de Broadway également, on fait des previews. Donc, c'est une version originale du spectacle qui est retravaillée pendant toute cette durée. Et ensuite, on fait le vrai run. C'est-à-dire que le spectacle part et c'est là que, techniquement, le côté business rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu à récupérer ce qu'on a investi dans le spectacle. Sauf que là, j'ai donc les previews. J'ai tout mon investissement sur scène qui est retravaillé, peaufiné. Les retours sont formidables. On a des retours même de journaux qui, normalement, ne regardent pas notre genre de spectacle, qui nous disent que c'est absolument génial. Et là, au moment où on est censé commencer à re-rentrer notre investissement, pandémie mondiale. Pandémie mondiale, non pas pour quelques mois, mais pour presque 2 ans dans le secteur de l'événementiel. Mais c'est drôle. C'est tellement drôle. C'est-à-dire que le moment où on se dit, allez, maintenant, il faut y aller. Put your money where your mouth is. Investis. C'est parti. Et bim. Bon. OK. Bah, on fait avec. on fait avec. Mais on se plaint pas parce qu'au final, on est là, on sera encore là l'année prochaine. Et
serrer les dents, quoi.
Oui, mais comme tout le monde. Mais comme tout le monde. Parce que il y a des gens qui sont bien plus à plaindre. Même si je vais être honnête, l'année dernière, c'était quand même très, 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 très particulier. Parce qu'en fin de compte, on est arrivé à un... Moi, je vivais en Angleterre. On vivait en Angleterre. Notre vie était là-bas. On faisait les allers-retours avec Paris pour des plateaux télé, etc. Mais j'avais une grosse activité en Angleterre. Et donc, pour nous, notre vie, elle était là-bas. Et tout d'un coup, on a le Covid, mais on a également le Brexit. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, notre mode de vie, le choix qu'on a fait, ne fonctionne plus. Et là, en fait, il faut vraiment se dire, bon, bah, ok, mon épouse qui est anglaise, on avait choisi de vivre là-bas. Et bah, maintenant, il faut peut-être qu'on vienne vivre en France. Bah, au final, c'est la meilleure chose qui soit passée. C'est la meilleure décision qu'on ait prise. On vit en France et on s'y sent bien. Et on a hâte, en revanche, que les choses redeviennent normales.
Tu m'étonnes, t'es pas le seul. Pour terminer, Chris, j'ai quelques petites questions que j'aime assez poser, que j'appelle le crible du gratin. C'est des questions un peu perso, mais bon, t'as déjà finalement répondu de manière très personnelle à plein de questions. Il y en a une que j'aime bien commencer, alors c'est peut-être ce que tu viens de vivre, mais est-ce qu'il y a une période de ta vie dont tu pourrais nous parler où t'as vécu un vrai bel échec? Tu sais, le bon vieux gros échec.
Ouais.
Qui ment pas, tu vois, genre public, machin, on l'assume. Pas uniquement pour parler d'échecs, mais pour essayer d'en tirer des enseignements. Qu'est-ce que tu as appris, finalement, suite à cet échec?
Alors, je vais pas en choisir un récent. C'est un échec que j'ai connu très tôt dans ma carrière. En fait, j'avais monté un spectacle dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et j'avais monté ce spectacle, en fait. J'avais espéré créer quelque chose de magique. On avait créé quelque chose de sympa. On avait du public. Sauf qu'on avait complètement sous-estimé le fait que de créer un spectacle en dehors des créneaux traditionnels de vente de spectacles changeait complètement la donne. Et donc, on avait investi en fait un montant à l'époque pour la taille du spectacle faramineux. C'était un succès le soir même, mais en fin de compte, 3 jours plus tard, on s'est dit « mais les chiffres ne fonctionnent pas du tout. Et si on veut repartir, il faut redépenser la même chose pour pouvoir... » Et donc, ça a conditionné en fait notre mentalité à « attends, il y a des raisons pour lesquelles on part en tournée. Il y a des raisons pour lesquelles on fait des petits spectacles de plus petite envergure au départ pour tester. Et ensuite, on se lance sur… » Ça paraît bête hein, comme ça, ça paraît complètement logique une fois qu'on le vit. Mais ça, c'était un beau joli four.
Ouais. Un beau four, mais qui t'a appris à ne plus refaire.
Oui, non, absolument, oui.
Donc, tu vois, un beau four. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière, pro, perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de refaire différemment?
Rien. Non. Non, 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 moi, je... Non. Non, ça va, je garde.
Tu gardes tout?
Ouais, je garde. Je pense que... Ouais, non, je garde. Il n'y a absolument rien qui me... Peut-être. Et c'est pas tellement ma carrière, en fait. Mais peut-être que le choix d'avoir notre fils, peut-être 3-4 ans plus tôt. Parce que c'est tellement génial que je me dis, ah ouais, on a quand même attendu longtemps. Mon épouse et moi, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble.
Ouais, c'est ça, ça faisait un moment.
Avant d'avoir le petit. Alors, c'est pas un regret, parce qu'on a vécu des trucs géniaux. On a voyagé le monde de fond en comble. Mais ouais, peut-être que le petit, un tout petit peu plus tôt, ça aurait été génial aussi.
Tu l'as eu à quel âge, finalement?
Moi, je l'ai eu à 38. 38. Mm. Donc, ouais. Et là, comme on est parti, je me dis, ouais, oui. Peut-être que d'en avoir 3 ou 4, ce serait génial, au final.
Écoute, affaire à suivre.
Mon épouse n'est pas complètement d'accord sur
j'allais
mes deux.
Dire, va falloir en parler à Jackie maintenant. Que tu lui fasses passer le message. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse juste que tu voudrais nous partager? Enfin, un truc qui te tient à cœur. Soit, tu vois, un truc que tu veux partager avec nous parce que ça te plaît. Ou carrément une citation que tu aimes bien, qui te porte.
Cette citation, elle me suit tous les jours. En revanche, elle vient avec un petit warning.
Ah.
Il faut quand même, en fait, l'appliquer avec de la réflexion. Jump and the net will appear.
Ok.
Saute et le filet apparaîtra au fur et à mesure. Je pense que des fois, il faut se lancer. Il faut y aller. Il faut pas trop non plus modéliser, partir en stratégie et en... Des fois, il faut juste se lancer. Mais soyons raisonnables aussi. Il faut se lancer en toute conscience de voilà les risques qui sont raisonnables à prendre maintenant.
Bon, après, parfois, quand on voit pas les risques aussi, on se lance plus que quand on regarde trop les risques. Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu disais au début, quand tu t'es barré à 18 ans à Londres, ouais. C'est aussi que... Et moi, ça me fait penser complètement à mon histoire entrepreneuriale. C'est parce que j'avais aucune notion de ce qui m'attendait que je l'ai fait. Tout ça, le monde me dit, ouais. Mais attends, pourquoi vous avez fait ça? Mais on était inconscients, oui, les amis. Oui, on était parfaitement inconscients. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Et parfois, c'est parce qu'on ne savait pas qu'on arrive à faire des choses impossibles.
Mais le parcours est tout aussi intéressant.
C'est vrai.
Parce que des fois, on s'inquiète de... est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le résultat sera au rendez-vous? Et au final, le résultat est une infime partie de l'expérience 2.
Mais c'est ce que tu disais, et c'est ça qui était formidable dans l'expérience du championnat du monde. C'est qu'au final, le jour où tu l'as, limite, tu te dis, c'est quoi le sens, tu vois?
Mais tu sais que moi, j'ai un truc aussi qui est très drôle, c'est que moi, toutes ces aventures, elles m'ont mené à une chose que j'ai toujours trouvé très, très drôle. Il y a une maison de consulting qui s'appelle McKinsey, qui est une des maisons de consulting les plus réputées au monde.
C'est connu. On a beaucoup de McKinsey qui écoutent le podcast. Ouais. Bonjour à vous.
Hello les copains McKinsey. Et en fait, ils organisent un truc qui s'appelle The Summer University à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Et c'est pour, littéralement, c'est 3-4 jours de formation pour leurs managers de projet, chefs de projet les plus talentueux, ceux qui vont aller le plus loin, et voilà. Et on peut pas sous-estimer l'impact de McKinsey sur
le monde.
voilà, si Obama a besoin d'un rapport sur des façons innovantes de réduire le chômage, ils vont appeler McKinsey. Et en fait, un jour, je reçois un appel pour me demander est-ce que vous considéreriez faire une conférence pour McKinsey? Vous n'aurez pas le droit d'en parler pendant 5 ans après, mais est-ce que vous seriez prêt à le faire? Et il me disait, et sur quel sujet? Et en fait, moi, immédiatement, je me suis dit, ce qui serait super, c'est de parler de la relation client et comment se développe cette relation client. Et peut-être même de faire un parallèle avec la danse, le monde de la danse de couple également. Et donc, j'ai créé une lecture en anglais sur la relation client pour McKinsey, sur mesure. Et je l'ai refait 3 fois d'affilée, 3 ans d'affilée, en fait, ils nous ont rappelé pour ce truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables d'avoir Chris Marquez un moment et une heure après, c'est Bill Clinton qui en train de parler d'un truc. C'est très, très, très chelou. Mais c'est très fascinant parce qu'en fin de compte, on se rend compte que notre aventure artistique, notre aventure, notre carrière est utile parce qu'en fin de compte, c'est un microcosme de tout ce qui se passe dans l'entreprise, de tout ce qui se passe en fait dans la relation entre l'entreprise et le client, et que tout est basé sur simplement la communication en général. Quand on est un couple et qu'on a en fin de compte à faire à l'adversité qu'on a eue au début de notre carrière, si on ne communique pas correctement entre nous et on ne choisit pas correctement comment communiquer avec le monde autour de nous, ça peut impacter très 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 gravement notre développement et nos chances de succès. Et donc j'adore le fait que ça ce soit si facilement transposable à l'univers de l'entreprise et du consultant. Et voilà.
Écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que tu sais, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi finalement l'invariant commun Chris Marquez, quand je disais que tu étais showman, c'était un peu ce que je voulais te faire dire, mais sans vouloir te faire dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, non, mais tu vois, c'est ce côté finalement, tu vas me dire, j'ai pas de talent. Moi, je pense que tu as un talent de communication. C'est-à-dire que tu arrives à faire passer des messages par de la danse, par des mots, par une image, par une mise en scène. Et ça, en fait, c'est un talent extraordinaire à l'heure actuelle parce qu'en fait, c'est ça aussi le leadership, tu vois. C'est de réussir à motiver des gens, à faire passer des gens à l'action. Et donc, je trouve ça très cool que ça puisse s'appliquer tout autant au monde du business qu'au monde de la danse, quoi.
Cool.
Bon, je te fais un peu trop de compliments. Du coup, tu vas prendre la grosse tête. Allez, on termine avec une dernière question. Enfin, 2 dernières questions. Allez, il y en a une que j'aime bien. C'est est-ce qu'il y a une croyance, un truc dans lequel tu crois, qui est en fait assez profondément controversé?
J'ai une relation très particulière avec ce qu'ils appellent aux États-Unis manifesting.
Manifesting. Alors, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire?
En fait, aux États-Unis, il y a ce bouquin qui a fait un carton qui s'appelle The Secret. Et tout le monde le lit. Enfin, il y en a plein qui le lisent. C'est un... J'ai une relation très particulière avec ce truc pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, ils disent, à un moment donné, quand tu veux quelque chose, il faut accepter que tu le veux.
Ouais.
Il faut te dire que tu le veux. Et
ça va devenir
et
dessus.
Tout
quoi.
Va se passer autour de toi pour... Je n'aime pas du tout l'explication. J'ai horreur de ce côté un peu mumbo jumbo de c'est l'énergie quantique. Ça ne veut rien dire. En plus de ça, dans cette, d'ailleurs, je suis fan de mécanique quantique. Donc, c'est encore un autre truc. Mais donc voilà, toutes ces croyances.
C'est le titre du podcast. Je suis désolée. Danseur, pas chorégraphe et fan de mécanique quantique.
je pense que
ça va bien vendre.
Je prends. Mais c'est drôle parce qu'en fin de compte, j'ai horreur de ces trucs un petit peu pseudo, voilà. Mais en même temps, il y a une chose qui est vraie. C'est quand tu veux quelque chose, il faut complètement l'accepter. Tu le veux. Et il faut faire ce qu'il faut faire pour obtenir cette chose. Donc, manifester pour moi, c'est important. J'y crois. Quand tu veux quelque chose, go after it.
Mais il faut passer à l'action.
Mais il faut faire. C'est pas juste je veux.
Je vois. J'adore. Dernière question, un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être fait même la personne que tu es et que tu as tendance à recommander autour de toi.
Moi, il y a un journaliste que j'adore, je lis tous ses bouquins, il s'appelle Malcolm Gladwell. Il avait au départ, tout a démarré d'un truc qui s'appelait The Tipping Point, comme quoi un petit effet peut en fin de compte être un moment de bascule gigantesque. Mais il y en a un autre qui a été plus important pour moi chez lui, qui s'appelle Blink.
Ah oui, je l'ai lu aussi.
Blink, il est fou. Blink, en fait, c'est ce pouvoir de comprendre que dans un certain domaine de conscience et de connaissance, on peut faire confiance à son instinct. On ne peut pas faire confiance à son instinct tout le temps, dans toutes les situations, mais on a des domaines de prédilection dans lesquels notre instinct nous raconte beaucoup de choses. Et ça peut simplifier la vie de pas mal de gens, en fin de compte, de se permettre des fois de comprendre ça. Donc, Blink, j'adore. D'autres bouquins, il y en a tellement.
Bah toi, il y en a un qui doit te parler de Malcolm Gladwell, le Outliers.
Outliers, je trouve que c'est génial parce qu'en fin de compte, il dit un peu tout et son contraire.
C'est pas faux.
Mais je le trouve génial, hein. Mais il dit tout un peu son contraire. C'est-à-dire qu'il dit, on va faire une étude, on va essayer de comprendre pourquoi en fait certaines personnes ont tellement plus de succès que les autres. Et je vais faire un gros raccourci. Mais oui, mais en fait, c'est parce que cette personne est née plus tôt dans l'année scolaire que les autres et donc a quelques mois de plus d'expérience qui sont incroyablement bénéfiques quand on est enfant. Sauf que cet effet disparaît complètement quand on arrive à l'âge adulte et que l'année de naissance n'a plus tellement d'impact. Mais je pense qu'il y a quand même un élément qui est the 10,000 hours, les 10 000 heures. Et c'est vrai que là, on retombe sur nos pattes. On peut tous être des outliers avec nos 10 000 heures. Nos 10 000 heures de répète, nos 10 000 heures de travail, nos 10 000 heures de focus et de concentration. Donc, ce que j'aime bien chez lui en tant qu'auteur, c'est que souvent, le titre n'est pas forcément ce qui va être le plus important qu'on... ne va pas être la chose la plus importante à en tirer en fin de compte de son bouquin. J'adore Malcolm.
Bah écoute, ça sera dûment cité dans le podcast. Merci mille fois, Chris. Pour terminer, si on veut te retrouver sur le monde merveilleux du web, tu es partout. Donc, c'est pas facile de te retrouver puisqu'en fait, tu es tellement partout. C'est quoi? C'est surtout Insta?
On est sur Insta. Je suis sur Insta. Oui, je suis partout.
Alors attends, j'ai quand même une dernière question pour toi parce que j'ai vu sur ton Insta que tu postes beaucoup de stories, mais ton dernier post, si je me trompe pas, date du 1er décembre.
Ouais. Alors, là, tu sais que ça va partir en 2 heures de réseaux sociaux.
Mais fais-nous la courte, mais on comprend.
En fait, moi, je suis très dans l'analytique. Je suis réellement dans l'analytique totale.
D'accord.
J'aime bien savoir pourquoi certains trucs marchent et d'autres pas du tout. J'ai un engagement qui est absolument faramineux pour le nombre d'abonnés que j'ai. Normalement, en fait, pour la faire courte, plus tu as d'abonnés, plus ton engagement baisse. Moi, en fin de compte, je suis à 280 000 ou 300 000, un truc comme ça, et mon taux d'engagement, il est à 5%.
C'est énorme.
Ce qui est vraiment très, très haut. Normalement, c'est réservé aux micro-influenceurs aux alentours de 5 à 10 000 abonnés. Mais je me suis rendu compte aussi que mon taux d'engagement est génial parce que je poste énormément de stories qui donc s'adressent uniquement à mes abonnés et que je leur pose beaucoup de questions et que justement, j'utilise énormément les outils built-in dans Instagram. Sauf que ma croissance a complètement stoppé
Depuis que, tu
depuis que j'arrête de poster dans mon feed. Donc ça paraît bien sûr évident et tout bête, mais moi en fait il faut absolument que je le comprenne par A plus B, sinon en fait ça m'énerve. Et donc je n'ai rien posté depuis des mois.
J'adore. J'adore. Bah écoute, merci pour ce petit cours de social management, social media de Last Minute. Merci à toi.
Merci à toi.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur. Et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.